Ici, dans le rétro, l'intégrale, Déborah Grunewald.
Salut à tous, soyez les bienvenus dans le rétro, le podcast, c'est notre rendez-vous, moi c'est Déborah Grunewald. Chaque semaine, on embarque pour un voyage spatio-temporel, on remonte le temps avec un invité, on y évoque sa carrière, ses questionnements et les nôtres aussi par la même occasion. À travers eux, on en découvre aussi sur nous-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes avec une artiste éclectique, une femme curieuse et aventurière, active et contemplative. Elle écrit, elle réalise, elle met en scène, elle joue. Bonjour Zaza.
C'est moi, je suis Zaza, Zaza de Paris.
C'est votre petit nom, Zabou Bretman, quand vous partagez vos recettes sur Insta notamment.
Absolument, mes recettes, et puis c'est comme ça que je signe mes petites pièces de porcelaine, c'est Zaza de Paris.
Vous faites de la porcelaine ?
Ouais. Je suis très contente parce que là j'ai plein d'assiettes et de petits mugs qui sont sortis du four.
Voilà. Et vous les vendez ou pas ?
Pas encore. J'ose pas, je trouve ça.
C'est vrai ?
Non, j'en offre à des potes, quoi.
Zabou Bretman, avec Florent Vassaud, vous avez réalisé le film Le Garçon. Au début, j'étais assez dubitative et puis je me suis complètement laissée embarquer dans cette expérience unique, déjà dans l'écriture. C'est un film, voire même deux ou trois histoires. Ça commence avec un album de photos que vous retrouvez dans une brocante. Sur ces clichés, on y voit une famille au centre, un garçon. Vous, vous allez imaginer son histoire, alors que Florent va faire des recherches pour reconstituer sa vraie vie dans un documentaire. Est-ce que ce garçon a vraiment existé déjà ?
Ah oui, ce sont des photos de famille. Alors, c'est pas un album, ce sont des photos éparses.
Éparpillées.
Et donc, même, c'est Florent qui les a retrouvées. Je lui dis, est-ce que tu partirais avec moi sur cette aventure dans laquelle tu vas chercher quelqu'un ? Donc, il trouve des photos de famille, de vraies personnes, évidemment. On va s'arrêter sur ce garçon. Effectivement, moi, je vais faire une fiction, mais d'après 24 heures de sa vie, hypothétique, évidemment, hein, forcément, parce que je ne sais rien. Et lui va le rechercher.
L'histoire, voilà, on la découvre au fur et à mesure, l'histoire de ce garçon. Le garçon, c'est un voyage à travers la France aussi, la vraie France.
Oui.
Il y a cette vieille dame sur le pas de sa porte, profondément désolée de ne pas pouvoir plus vous aider dans vos recherches. On imagine donc sa solitude, on imagine sa gentillesse, son dévouement. Est-ce que cette humanité, c'est important de la montrer aujourd'hui ?
Oui, alors ça, c'est vraiment Florent Vassaud qui a été travailler ça et chercher dans la France entière. C'est ça qui lui plaisait aussi dans ce lot de photos, puisqu'on passe par l'Alsace, le Pays Basque, par la Normandie, par la Bourgogne et par Paris. Et lui, il a cette capacité qu'ont les grands documentaristes, je pense, d'aller stimuler, on va dire, peut-être l'intimité de quelqu'un. Et les gens se livrent comme ça, d'une manière... Et cette dame, elle a 92 ans, quoi. Et c'est alors à la fois très, très drôle, parce qu'elle est drôle aussi. Elle est sympa, elle est drôle. On est toujours sur la crête entre vraiment quelque chose de très drôle et de très bouleversant aussi.
Est-ce que vous trouvez que cette humanité, elle disparaît ou en tout cas, on la voit moins ?
Malheureusement, en fait, elle disparaît parce que tout va vite. Et on sait tout. Il n'y a plus l'espace et le temps pour donner une chance à la poésie de naître. Florent a attendu parfois des heures et des jours avant d'avoir quelque chose de merveilleux. Mais ça existe. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. Donc là, la raison du film était de ne pas savoir. Moi, je ne voulais pas savoir. Et quand on se retrouvera au montage, et c'est ce qui s'est passé, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça ? Et en fait, ce qui nous a mené à finir ce film, à faire finalement le film tressé qui existe, mais c'est l'humanité des gens et leur écoute. On s'est laissé faire parce qu'ils disaient. Et en fait, il faut leur laisser de la place. Mais ça disparaît pas chez les gens. Ils sont toujours pareils. Et les gens, c'est nous. Il faut pas oublier ça. Quand on dit les gens, on n'est pas séparés des gens. On est les gens.
Sauf qu'on est dans un monde de plus en plus clivant.
Et bien là, il y en a moins. Il y en a
vrai.
Quasiment pas, puisque par moment, à la fin, on sait même plus qui est du documentaire ou de la fiction. Et ça n'a plus d'importance, puisque ça devient la même histoire. Et ça, je trouve ça important, quoi.
Zabou Bretman, la première chose que je sauve si ma maison brûle, ce sont les photos. Quand mon papa est décédé, la première chose que j'ai prise, c'est les photos. Les photos, donc ça c'est des phrases dans ce film. Les photos, c'est notre mémoire, c'est notre histoire, on les développe de moins en moins. Vous pensez que l'histoire va s'effacer au fil des générations ?
Je pense que ça va...
On fait plus d'albums. Mais avant, on faisait des albums.
Oh, on en refait. Ça se refait beaucoup, moi, ma
fille,
Internet,
4 ans.
Sur Internet,
on peut télécharger les photos qu'on a et on fait les albums.
Oui, parce qu'on les offre.
Ouais.
Donc on les offre, les Polaroids ressortent. Et je ne crois pas que l'être humain a besoin de se rappeler, a besoin de se souvenir.
Ouais ?
Oui, on a besoin pour se projeter. Parce qu'en fait, le passé, c'est la construction pour pouvoir imaginer le futur. Si vous n'avez pas de passé, vous n'avez pas de futur.
Ouais.
Donc ça, c'est très intéressant. Surtout quand on regarde dans le rétro. Hein.
Exactement.
Eh bien... Mais c'est fondamental, c'est pas nostalgique et c'est pas c'était mieux avant, c'est que qu'est-ce qui était avant pour savoir ce qui sera plus tard. Il n'y a pas que du moche dans les nouvelles techniques.
Technologies.
Il faut savoir s'en servir. Et l'outil, ce n'est pas l'outil, c'est la personne qui s'en sert. Donc, les humains vont souvent, ou toujours, ou beaucoup, trouver un endroit
pour
exister.
Bon, parfois, il faut quelques excès, quoi, pour revenir un peu...
Peut-être, mais vous voyez, c'est typiquement de ce film-là, on ne pensait pas que ça aurait cette répercussion aussi forte, quoi.
Mais il y a plein de petites choses, en fait, dans ce film qui nous remue. Il y a les photos, il y a les décors, il y a les tenues, il y a les tabliers, les lunettes que nos grands-parents ou nos parents portaient. Moi, ça m'a mis sérieusement un coup, mais j'ai eu envie de retourner à cette époque.
Et faire quoi ?
Oh, je ne sais pas, m'amuser, courir dehors, surtout discuter, parce qu'en fait, on se rend compte d'une chose, c'est quand les personnes ne sont plus là, c'est là qu'on se dit, mais mince, en fait, j'aurais dû
leur demander.
Connaître leur histoire.
Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord.
Et ça, on s'en rend compte trop tard. C'était
trop
quoi
tard.
Votre histoire ? Comment vous avez grandi ? Qu'est-ce que vous avez vécu ?
Qu'est-ce que vous avez aimé ? Ouais.
Ici, dans le rétro.
Et nous aussi, on va faire un voyage dans le temps. C'est parti. Zabou Breitman, vous naissez à Paris, dans le 14e arrondissement. Votre père, Jean-Claude Deray, est scénariste, dramaturge et comédien. Votre mère, d'origine québécoise, Céline Léger, est comédienne. Enfant, on est souvent défini par ses parents. Vous, dans l'œil de vos parents, vous étiez comment ?
Alors, mon père était très convaincu que les filles et les garçons devaient être élevés de la même façon. Donc, vous vous imaginez, quoi. À mon époque, je suis élevée, comme on dit, non-genrée. Je peux faire du ciment, je peux fabriquer des trucs, je fais du bois. Il m'a dit, mais t'es pas plus con qu'un garçon, tu peux faire des trucs d'électricité. J'avais dit, ah, mais non, mais ça, c'est les garçons. Il m'avait dit, ah bon, mais de quoi ? Et donc, voilà. Ma mère me trouvait très drôle et j'aimais beaucoup imiter. Donc, ça la faisait beaucoup rire. Je pense que ma mère était rebelle. Elle était rebelle parce qu'elle était MeToo, ma mère. Oui. Sauf que moi, je comprenais pas, puisque j'étais pas élevée comme ça. Donc, je comprenais pas de quoi elle parlait. Quand elle disait, ouais, les femmes, elles ont pas... Elle était tout le temps sur la revendication féminine. Et moi, je comprenais pas. J'ai compris ça beaucoup plus tard. Malheureusement, elle était déjà plus là. En écoutant les femmes et leurs difficultés à exister en tant qu'être humain, juste. Et pas juste comme une femme avec une paire de fesses... Ouais. Une zézette et des seins. Non, mais je veux dire... Et donc, elle était dans la revendication et un peu dans la colère, ma mère. Et mon père, il me disait juste, bah, tu peux être pilote de ligne, hein, si tu veux, il n'y a pas de problème. Tu fais ce que tu veux, de toute façon.
Zabou Breitman, c'est vrai que vous aviez interdiction d'appeler votre mère maman ?
Oui. Ben oui. Pour elle, j'étais pas prévue, on va dire, dans l'agenda. Et donc, elle avait 20 ans, sa mère a eu 11 enfants. Elle s'est dit, j'aurai pas de môme, je serai libre. Mais je suis arrivée.
Et alors, mais comment ça se passe quand c'est comme ça ?
Ben, ça se passe pas super bien.
Parce que quand
bien.
C'est pas prévu, et que justement, ben, on veut être une
elle,
femme libre... Et,
c'était la fin de sa vie pour elle. Ouais. Elle
et a ça, été... vous l'avez senti, à un
bien
moment
sûr,
donné.
Ben, elle le disait suffisamment, hein, vous savez.
Devant vous ?
Ben, devant moi, ouais. Oui, c'était une personne toute fragile qui a été... Je veux dire, elle a eu droit à tout ce qu'il y a de pire hein, quand on est une petite fille. Elle a eu droit à tout ce qu'il y a de pire, donc vous pouvez imaginer. Tout ce qu'on peut imaginer qu'une petite fille puisse subir, elle l'a subi. Donc, évidemment, non, elle ne va pas être maman.
Vous l'avez su, ça ? Tout ce qu'elle a subi, c'était
tard.
Ce qu'il y avait de pire ?
Tard. Je l'ai compris tard. Vous savez, le corps des femmes est vraiment mis à mal, quoi, en permanence. Mais je dis « vous savez » parce que moi, j'étais tellement tranquille. Il n'y a pas un mec qui m'aurait mis la main au cul, par exemple. Bah si, mais il s'en serait pris une directe. Mais, non, mais...
Non, mais je veux dire, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est vrai qu'il y a des femmes qui sont pas capables de se défendre ou de répondre.
Et voilà, un jour, il y a un exhibitionniste dans le métro, d'accord ?
Ouais.
Il est en face de moi, donc je vois qu'il met quand même la main dans son jogging, voilà. Et puis, bah, il sort ce qu'il a à sortir, quoi. Et je lui hurle dessus. Et je dis, mais ça va pas, non ? C'est dégueulasse ! Range ça tout de suite ! Et donc, le mec était sidéré, quoi.
Parce et les que... gens autour, parce que c'était dans le métro.
Bah, les gens autour n'ont rien dit.
Mais ils avaient vu.
Ouais, mais ils n'ont pas osé. Pas abondé, non. Mais il y a l'état de sidération. Moi, j'ai failli y passer, je pense, en Australie. J'étais partie toute seule en voyage avec un type très bizarre qui était un guide et qui me disait des choses très bizarres. Et je me suis souvenue vaguement de ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire, il faut parler de soi, il faut parler des gens qu'on connaît, il faut parler... Voilà, il ne faut pas être seule. Et je suis restée en état de sidération et je ne l'ai pas dénoncé. C'est quand même hallucinant.
Quel âge ?
Ah bah, déjà vieille.
Déjà vieille. Mais non.
J'ai une carte de vieille SNCF, laissez-moi tranquille. D'ailleurs, je trouve qu'il devrait appeler ça carte de vieux.
Ah ben non, parce que c'est trop péjoratif, c'est carte senior normalement.
Mais senior, c'est un euphémisme monstrueux. C'est le petit coin, quoi, senior. Je vais au petit coin. Ou c'est quoi, ou mince à la place de merde. Non.
Oui, bah oui.
J'aime pas ces euphémismes-là, je les trouve moches.
Mais il y en a de plus en plus.
Oui, mon père d'ailleurs était contre senior. Il disait, je suis un vieux, quoi, je suis vieux. Il y a jeune et vieux, mais vieux, c'est pas péjoratif.
C'est... Bah ça l'est aujourd'hui, en fait, c'est vrai.
Mais non.
Non, mais ça l'est pas. C'est, voilà, mais
je trouve ça... Bah, c'est comme si on prenait avec des pincettes.
C'est ça.
Mais non. Pourquoi ? Et l'autre fois, j'entendais, ouais, les soixantenaires, bon, une mamie. Et ça m'a fait marrer. Je me suis dit, bah ouais, une mamie, pas de problème. Parce que c'est OK, mais je pense que ma mère, bon, mamie, c'était pas possible non plus. Ah, il y avait un peu
bah,
mamie.
Si maman,
mamie Céline,
possible,
elle voulait bien.
Si maman, c'était pas possible, mamie.
Non, mamie être... Céline, elle aimait, parce qu'elle aimait bien ses petits-enfants, mais non, maman, elle voulait pas, non.
Zabou Breitman, on part maintenant en 1963. Nous sommes chez vous, on allume la télé, c'est Thierry Lafronde, série que votre papa a écrite. Dans cet épisode, la petite fille, c'est vous.
Qu'est-ce que tu fais là, toi ?
Eh ben alors, c'est déjà fini ?
Non, mon moineau, ça recommence.
C'est toi qui fais dans la ville ?
Thierry Lafronde. Et toi, comment tu t'appelles ?
Bah, Isabelle, tiens.
Alors, vous qui nous écoutez, vous n'avez pas l'image, mais on a le mime aussi, en même temps que les mots qu'on vient d'entendre. On a Zabou qui mime donc son personnage.
Ouais, je fais un playback.
4 ans, quoi.
Ouais, playback total.
4 ans. Voilà, exactement. Vous avez donc 4 ans. Aujourd'hui, votre voix n'a pas changé. Enfin, très peu. Non, très peu.
Pendant l'horreur d'une profonde nuit, ma mère, Isabelle, devant moi, s'est montrée comme au jour de sa mort.
C'était en 2022. Cette année-là, visiblement, vous avez découvert les filtres Instagram et ça, ça vous éclate.
Tu penses qu'à toi, tu penses jamais à moi. Tu penses qu'à toi, à ton bureau.
Les six-packs, ils étaient tellement, tellement vénères. J'ai l'impression qu'ils allaient me tomber devant les bijoux de famille, excusez-moi.
Ceux qui fabriquent les filtres, faites en sorte que ça marche et pour tout le monde. Révisez votre copie, les gars.
Mais qu'est-ce que j'aime ça. Mais les filtres, voilà. Et c'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure. L'outil, c'est une chose, mais... On peut s'en servir différemment, on peut s'amuser avec.
Alors là, vous vous amusez. Par contre, si on parle de filtres, il y a quand même aujourd'hui des personnes qui se photographient ou qui se filment avec des filtres automatiquement pour masquer un peu les défauts, pour,
mais oui, et la
pour s'embellir en quelque sorte.
C'est pas s'embellir, c'est répondre à un canon de beauté. La chose qui est épouvantable, c'est qu'ensuite, quand vous vous regardez dans le miroir, ça va pas. Donc, vous faites tout refaire beaucoup. Donc, on a des filles qui ont, je ne sais pas, 30 ans.
Ouais.
Elles ont déjà refait tout leur visage pour ressembler au filtre. C'est très intéressant parce qu'on est à une époque où donc, la femme se revendique, hein, d'accord ? Et parallèlement, en même temps en tout cas, il y a exactement l'inverse qui se passe. C'est très curieux et c'est très intéressant. Il faut vraiment demander... Ça serait vraiment bien d'avoir une émission sur une sociologue ou un sociologue qui raconte exactement ce qui se passe, parce qu'il y a plein de gens qui font des études là-dessus, et je suis sûre que c'est passionnant.
Zabou Breitman, retour dans votre enfance après cette petite parenthèse téléportation. Nous sommes maintenant dans le jardin. Vous vous piquez avec des orties, chose assez banale quand on est enfant et qu'on joue dehors. Mais grâce à vous, j'ai appris qu'il y avait un antidote contre les piqûres d'orties, qui est juste à côté des orties en plus.
Absolument, dans un champ d'orties,
Il
y a aussi la plante antidote de l'ortie.
Donc, qui s'appelle le plantain.
Le plantain. Et si vous avez des orties, bon, évidemment, il y a de l'urticaire partout. Le plantain, vous frottez le plantain sur les petits boutons ou les brûlures, les petites cloques, et ça s'en va.
Voilà, donc j'ai appris ça. Mais ouais, c'est génial.
Ouais,
appris ça, donc n'hésitez pas à aller voir sur Internet la photo du plantain.
Ah, mais vous alliez dire, n'hésitez pas à appeler Zabou et demandez-lui comment on
vous
guérit.
Vous pouvez aussi. La médecine est dans la nature, selon vous ?
Absolument, oui. Je suis pas non plus, moi je me soigne pas par les plantes.
Moi, c'est ce que j'allais vous demander.
Non,
la naturopathie ou toutes
non,
ces choses-là.
Non, mais non. Je prends très 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 peu de médicaments, mais vraiment quasiment pas. Je vais jamais chez le médecin. C'est rare, en tout cas, très rare. Je sais juste que en sophrologie, c'est très simple. Faut pas que la douleur s'installe. Ils sont tous médecins dans ma famille, donc j'écoutais bien mon grand-père. Il faut jamais que la douleur s'installe, en fait. Si on attend, en se disant non, mais j'ai mal à la tête, mais je vais attendre, c'est une bêtise.
C'est ce que je fais tout le temps.
Alors non, c'est beaucoup plus difficile de faire passer une douleur qui est installée qu'une douleur naissante. Donc, au lieu de prendre 2 ou 3 grammes de paracétamol sur une journée, eh bien, vous, si vous prenez 500 mg, dès que vous avez un tout petit peu mal, c'est passé et c'est passé pour tout le temps. Donc, vous prenez moins de médicaments, en fait. Quand vous...
D'accord.
Ah oui.
Pendant votre enfance, vous et votre famille quittez Paris, plus assez d'argent. Vous racontez « J'ai traîné le chagrin de mes parents comme un boulet. Finir dans la misère était ce qui pourrait arriver de pire à ma mère. Elle était née dans une famille populaire, nombreuse, s'était mariée avec un homme issu d'une famille bourgeoise et elle a fini pauvre. Comment on vit ça quand on est enfant ?»
Pas bien, enfin, la tristesse des parents, vous êtes poreux quand vous êtes petit quand même, vous êtes très poreux. Donc, elle suinte en fait, elle est là tout le temps déjà, elle est là concrètement, vous avez déménagé, vous avez plus vos potes et tout ça. Et puis, vous les entendez, ils ne parlent plus que de ça. Au bout d'un moment, il y a le chagrin, il y a les regrets, beaucoup de regrets, et puis il y a les colères mal dirigées.
Ouais.
Bah ouais, il y avait beaucoup trop de chagrin et beaucoup trop de misère. C'est dur. Ma mère a dit cette phrase un jour, je m'en souviens, elle me colle à la tête cette phrase. Il suffit d'une vie gâchée, ça suffit une vie gâchée. Elle parle de sa vie gâchée. Je pense qu'elle n'a pas tort. Sa vie a été gâchée.
Et vous, avec vos yeux de petite fille, qu'est-ce que vous vous dites? Comment vous le vivez, ça?
Ça me fait de la peine, ça me crève le cœur, quoi. Et alors, est-ce que c'est pour ça que je suis tellement reconnaissante à la vie et que j'aime tellement la vie? Mais j'ai un amour inconditionnel pour la vie, énorme. Et peut-être, si ça se trouve, que, en tout cas, cet amour-là, il a grandi à force d'entendre ces choses-là, quoi. Je me suis dit, jamais ça sera gâché ma vie. Jamais. Impossible.
Zabou Bretman, vous quittez Paris donc pour le Loir-et-Cher, pour Mentour-sur-Cher, je le prononce bien?
Bon, vous avez rajouté un R, mais qui n'est pas nécessaire, parce qu'il y a Tour aussi à côté.
C'est pour ça.
Mais je dis rien, parce que vous êtes gentille.
Non, mais je vais quand même bien le prononcer, pour ceux qui nous écoutent, qui sont dans le coin.
Non, Mentour.
Mais on assume, donc c'est Mentour.
Mentour-sur-Cher,
donc dans le Loir-et-Cher.
Oui.
Vous emménagez dans un prieuré du XIIIe siècle, vous dormez dans la tour où il fait 6 degrés l'hiver. Vous aimez dessiner, vous aimez faire de la pâte à modeler, on rappuie sur le bouton. Vous êtes maintenant adolescente, c'est l'heure de la cantine. Vous êtes là avec votre petit chapeau des années 50. À table, ce jour-là, on vous balance au visage du pain mouillé. Qu'est-ce que vous avez ressenti?
C'est-à-dire que d'abord, je ne comprends pas. Parce que je me dis, c'est sale, le pain mouillé. Mais j'ai une telle, une sorte de forme d'optimisme qui fait que je me dis, c'est n'importe quoi ce truc. Petit à petit, je me dis, non, mais c'est parce que j'ai juste un chapeau que j'ai trouvé dans une brocante. Que je suis très différente des autres gens et qu'ils me regardent juste vraiment comme une martienne, quoi. Et donc, les martiens, on ne les accueille pas toujours comme dans les films de Spielberg. Les martiens, on leur jette, on les lapide.
C'est violent quand même,
C'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est épouvantable. Et je n'ai pas eu cette sensation. J'étais quand même très malheureuse. J'étais très, très solitaire et très isolée.
Vous vous sentiez rejetée par les autres?
Ouais, très différente. J'avais une copine. Et on rigolait bien, elle était super, elle était intelligente. Donc ça, déjà, ça changeait. Il n'y a pas que des imbéciles partout, c'est pas vrai du tout.
Ouais.
C'était juste le fait d'être différente qui m'avait stigmatisée.
Pourquoi différente?
J'avais pas les mêmes centres d'intérêt, j'avais jamais grandi là, j'étais très différente.
Et vous ne vous êtes pas fondue dans la masse, parce que justement, à l'adolescence, on essaie d'être comme tout le monde, de s'habiller comme tout le monde, de parler comme tout le monde.
Ah si, j'ai essayé un petit peu, mais de toute façon, m'habiller comme tout le monde, je ne pouvais pas, parce que de toute façon, j'avais 2 pantalons, je pense, et 2 pulls. Donc, j'avais vraiment rien. Et les gens me trouvaient différente, mais j'étais moi-même différente par rapport aux gens. Donc, je veux dire par là que je ne cherchais pas non plus, peut-être, à être comme tout le monde. En fait, j'avais l'impression que tout le monde était comme moi. Donc je me disais, c'est super, tout est super, je trouvais la vie super. J'ai quand même tenu le coup parce que j'ai un élan d'optimisme suffisamment fort pour aller très longtemps.
Et encore aujourd'hui, vous êtes optimiste?
Ah ouais.
Dans la société aujourd'hui qui est vachement anxiogène avec les infos.
Ça peut être anxiogène.
Vous restez optimiste?
Je reste quand même philanthrope.
Oui. Zabou Bretman, vous êtes bon élève, un peu tête en l'air, ça ne vous empêche pas de passer votre bac, vous prenez des cours d'art dramatique, les cours Simon, le conservatoire, en 1980, vous animez l'émission Jeunesse d'Antenne 2, Récréa 2, seule, en duo avec Alain Chauffour et ce jour-là avec Dorothée.
Dis-moi Zabou,
oui.
Tu vois toutes ces lumières, toutes ces étoiles?
Oui, c'est beau.
C'est tout éclairé.
Oui.
Tu crois qu'elles sont habitées?
Oh, c'est sûr Dorothée, Regarde, il y a de la lumière.
Donc là, on est le 2 décembre 1981, téléportation. En 1992, nous sommes maintenant au cinéma. On découvre alors le film La crise de Colin Serrault.
Je veux vivre seul, tu comprends? Je veux pouvoir péter dans mes draps tranquille, rentrer à n'importe quelle heure, bouffer sur un coin de table, inviter des copains, faire le ménage seulement une fois par an si ça me chante. Je veux dépenser mon fric à ma façon, je veux...
Mais tout ça, tu pourras très bien le faire, je vois pas où est le problème.
Le problème, c'est que je ne veux pas d'un mec étiaffé sur mon canapé qui baille en disant qu'est-ce qu'il a bouffé ce soir. Je ne veux pas qu'on me dise, tiens, toi qui repasses si bien les chemises. Je ne veux
donc
pas
là,
acheter la
cinéma,
nouvelle
c'est la crise.
Qui est fabuleuse et on paiera les prêts ensemble. Je ne veux pas que ta mère me téléphone.
Super
pour
monologue,
si
là.
Incroyable.
Même, un truc de dingue.
C'est Colin Serrault qui écrit quand même ça.
C'est magnifique.
92, c'est dingue d'écrire ça. Quand même. C'est merveilleux, quoi. C'est très visionnaire, quand même.
Pour vous, c'est quoi, Zabou Breitman, les piliers d'un couple heureux et amoureux?
S'il y en a, ça serait laisser à l'autre sa liberté au maximum, c'est-à-dire ne pas être en codépendance permanente. Mais encore, ça, je ne sais pas s'il y a des grandes lois, ça dépend des deux qui sont en couple. Ça dépend du couple. Il y a des gens qui sont... On a l'impression que c'est déséquilibré, bah, c'est leur équilibre. Je pense que c'est comme ça, avec le moins de méchanceté possible, on va se dire.
Zabou Breitman, vous avez interprété Dorothy Parker. Dorothy Parker écrivait dans La vie à deux, si vous voulez que quelqu'un soit amoureux de vous, il suffit de le détester. Elle était aussi très critique à l'égard du mariage, qu'elle considérait comme une forme de contrainte sociale et un piège pour les femmes. Vous qui l'avez donc incarné, vous vous reconnaissez dans sa vision de La vie à deux?
Sa vision de La vie à deux, c'est la vision de ma mère. D'ailleurs, je lui ai dédié ce spectacle. Très indépendante, un peu introvertie, mais avec l'alcool, elle arrivait à parler et à dire des trucs très très drôles, assez noirs, très noirs, sombres. Ma mère était sombre. Donc, c'était pour elle que j'ai joué aussi Dorothy Parker.
Le mariage pour Dorothy Parker, il me semble que c'était une prison.
Oui, oui.
C'était ça, hein?
Oui, oui. Elle est pour l'émancipation de la femme, évidemment, totalement.
Mais quitte à être seule? Parce que dans cette émancipation, on n'imagine pas une vie à deux, justement.
Mais oui, mais c'est ça le truc, c'est que je pense qu'il y a des étapes, et qu'à un moment donné, là, il y a des étapes de célibat qui deviennent de plus en plus fortes. Être seul plutôt que mal accompagné, j'ai l'impression, j'en sais rien, je ne suis pas sociologue, mais j'ai l'impression qu'une fois que les choses commencent à se régler ou commencent à être admises, ça sera plus simple, à mon avis. Parce qu'il ne s'agit pas, par exemple, pour les femmes, de taper sur les mecs. Ça, c'est pas, pour moi, ce n'est pas possible. En revanche... qu'ils se remettent en question, c'est bien, mais c'est pas une question de castrer les mecs non plus. Mais c'est de rappeler l'importance de chaque être humain, qu'il soit femme ou homme, c'est tout.
Qu'on est complémentaire aussi.
Et qu'on est complémentaire aussi, que c'est possible, et que tout va bien, et que l'amour arrive là où il doit arriver, et que ça, deux personnes, on dit « ah oui, mais ils sont pas pareils ». Ça peut être bien, ou ils sont pareils, ça peut être bien aussi, ça
c'est
dépend.
Pour ça qu'il y a les opposés s'attirent et qui se ressemblent s'assemblent.
Voilà,
donc en fait, il y a les deux options.
Il y a des dictons pour tout, je pense.
Voilà. La crise, donc, c'était en 1992, il y a eu Cuisine et dépendance aussi en 1993. On part maintenant en 2001. Nous sommes au restaurant avec Isabelle Carré et Bernard Campan, quelques mois avant le tournage de votre film « Se souvenir des belles choses ». À table, Bernard Campan explique qu'il a peur de jouer une scène d'engueulade et vous dit « je ne suis pas à l'aise avec la colère, car dans la vie, je ne me mets jamais en colère ». Est-ce que vous vous souvenez de cette anecdote?
Je me souviens de cette anecdote, c'est super de se souvenir aussi de ce moment au restaurant. Bernard m'a dit ça et il était très inquiet. Et ça a recommencé le matin du jour où on tournait cette scène. On l'a fait deux ou trois prises. Et après, il pleurait. Et il n'a pas même voulu aller à la cantine. Il a dû rester pendant une heure tout seul à digérer ce qui venait de se passer de lui, quoi.
Je vous demande si vous vous souvenez de cette anecdote particulière, parce que ce premier film que vous avez réalisé traite de la mémoire. Vous, Zabou Breitman, vous êtes hypermnésique. L'hypermnésie, c'est le fait d'avoir une mémoire exceptionnelle. C'est un phénomène assez rare d'ailleurs. C'est un don ou une malédiction?
Bah, ça dépend, hein. Évidemment, quand vous avez des souvenirs qui reviennent. Bon, mon optimisme s'arrange pour les effacer ou les évacuer, mais je me souviens très très bien quand les gens me disent quelque chose à l'oral. Très très bien, c'est l'oral, hein, surtout ma mémoire.
Ouais.
C'est surtout à l'oral. Je sais exactement ce que la personne m'a dit, quasiment au mot près, comment elle était habillée. Où elle... Sauf que la personne en face ne s'en souvient pas, donc pense que je mens. Je dis, mais si, t'as dit ça? Ah, non. Et ça, c'est un peu frustrant. C'est compliqué. Parce que je dis, mais si, t'as dit ça et ça et ça et ça. Ah bon? Et je sais que j'ai raison. Mais comment le prouver? Donc, je ne vais pas me mettre à enregistrer les gens en cachette pour dire, vous voyez bien que j'avais raison. Ça, c'est impressionnant.
Si je dis une connerie, vous vous en rappellerez dans 10 ans, par exemple.
Et absolument. D'ailleurs, ça fait 10 ans que nous avons fait cette émission et je vous rappelle que vous avez dit une connerie. Non.
J'ai eu peur.
Bah, on m'avait dit dans le rétro. C'est dans le rétro dans 10 ans.
Dans 10 ans.
Et en plus, j'ai travaillé ma mémoire avec mon père. On jouait aux moyens mnémotechniques.
Ouais.
On peut apprendre à se souvenir. Pour se souvenir de n'importe quoi.
Ouais.
Mon père m'a dit, quand j'étais toute petite, c'est facile, c'est une question de décision. Je dis, bah, comment ça? Il me dit, si tu décides de t'en souvenir, tu t'en souviendras. Tu essayes de t'en souvenir, mais tu n'as pas le désir de t'en souvenir. Et c'est vrai. Vérifiez-le, pour n'importe qui, c'est vrai. Vous décidez de vous en souvenir, vous allez trouver un moyen, et ça ne s'effacera plus. Alors, le moyen mnémotechnique, c'est top, évidemment. Évidemment, ça ne sert à rien de savoir où il y avait de l'aluminium aux États-Unis en 78. Vous me direz, ça ne sert à rien. Mais je sais toujours où il y en avait.
Parce qu'au Alors, dites-nous.
Seattle, San Francisco, San Diego, Los Angeles, Chicago, Détroit, Buffalo.
Et alors, comment
Parce
vous
que vous c'est 600 sans loge, 6 débuts. Non, c'est complètement wow idiot. Mais non, par
600
contre,
sans loge, c'est...
600 sans loge, c'est des 600 sans loge, en gros. 600 sans loge, chi début, c'était chi débule.
Non, mais c'est censé nous aider, en fait, les moyens mnémotechniques. Là,
ouais,
ça ne nous aide pas du tout.
Si, ça peut aider. C'est intime, un moyen mnémotechnique. Non, mais moi, ça me disait quelque chose. Et il faut absolument utiliser ça parce que c'est magique. Ouais. C'est magique.
Zabou Breitman, ce souvenir des belles choses vous vaut le César de la meilleure première œuvre de fiction. Vous avez réalisé d'autres films, dernier en date, Le Garçon, qui traite aussi de la mémoire d'ailleurs. Il y a eu sinon L'Homme de sa vie en 2006, Je l'aimais en 2008, on part maintenant en 2010. Nous sommes sur le tournage de No et moi que vous réalisez. Votre fils Antonin a 17 ans, il joue Lucas dans le film. Il vient vous voir en panique totale, vous dit qu'il a touché un projecteur, il vous montre sa main avec une blessure hyper réaliste. C'était du mytho. Merci la maquilleuse qui a fait un make-up hyper réaliste. Visiblement Antonin, très bon comédien, donc vous étiez en panique. Quel genre de maman vous êtes?
Oh, c'est difficile, c'est aux enfants qu'il faut demander ça.
Alors, quelle maman vous essayez d'être?
Oh, ça non plus, j'en sais rien. Mais ben, on rit beaucoup, on a fait des bêtises, des conneries.
Ah ouais?
On a rigolé. Et en même temps, je peux être un peu rigide sur des trucs. Ça, on ne fait pas, ça, on ne fait pas. Mon père avait ce côté-là aussi. Donc, un peu fofolle comme ma mère pouvait l'être. Voilà.
Antonin, donc c'est votre fils, vous avez une fille aussi, Anna. Jamais je ne me fâcherai avec mes enfants. Est-ce que c'est vrai qu'un jour, c'est ce que vous vous êtes dit?
Ouais, non, mais je me suis dit... Mais...
Alors... Parce que c'est le souhait, ça, c'est le souhait de tous les parents. Je pense de ne pas vouloir se fâcher avec ses enfants, mais comment on fait?
Non, on ne peut pas, on se fâche et puis on fait comme on peut. Surtout, on fait comme on peut. En revanche, il y a une chose beaucoup plus importante, je pense, et qui est beaucoup plus réalisable, c'est de ne jamais rester fâché. On ne reste pas fâché. C'est pas possible. Moi, j'ai décidé de ne jamais rester fâchée avec eux. Je peux leur en vouloir sur un truc, mais pas rester fâchée.
Est-ce que, parents, vous vous excusez parfois?
Oui.
Parce que c'est plus rare, dans ce sens-là.
Dans ce sens-là, eh bien, oui. Oui, oui. Ben, ça s'apprend, hein. Ça s'apprend. Faut travailler un peu sur soi, hein, si on veut s'améliorer. Ce qui est, en fait, un truc super dans la vie, d'être un peu meilleur. Je suis loin d'être parfaite. Donc, oui, en travaillant, on arrive à faire mieux et à être capable de dire « bon, ça, c'était pas bien et je suis désolée parce que ça, c'était pas bien ». Et c'est un soulagement d'abord pour la personne en face qui n'est pas annihilée, bon, vos enfants évidemment aussi, mais ne pas s'excuser ou ne pas dire « je suis allée trop loin », par exemple, c'est possible. On peut être juste en colère et puis vous dépassez la limite parce que c'est autre chose qui rentre en ligne de compte. Bon, ma colère de départ est légitime, ce qu'elle est devenue n'est pas bien.
En fait, il faut parler. Ne jamais rompre le dialogue.
Non, c'est ça. Alors ça me gêne. Il y a des gens qui font ça.
C'est-à-dire quoi? De plus vous
oui.
adresser la parole?
Oui, ouais, de disparaître, de plus être là. Et là, ça, je trouve ça un peu bête.
Et parce mais dans que... ces cas-là, vous y allez, vous?
Bah non, j'attends.
Bah, mais si chacun attend?
Non. Je propose, puis je vois qu'en face, il n'y a rien. Ouais. Bah tant pis. En revanche, plus on attend et plus c'est compliqué pour revenir. Ouais, je pense que c'est absurde. Il y a un moment donné où il y a une grande absurdité.
Ici, dans le rétro, Déborah Grunewald.
On part maintenant en 2017. On va ouvrir cette porte. Nous sommes au Théâtre des Halles à Avignon.
Alors, je vais pas encore assez bien pour sortir, c'est ça?
Faut en parler à eux.
Non, mais qu'est-ce qu'ils ont dit?
Vous avez mis en scène et monté l'adaptation de Logique imperturbable du fou. Ça parle de toutes les folies, de qui est fou, qui ne l'est pas, ça parle de santé mentale. Il y a quelques jours, une enquête a révélé que près de la moitié des ados souffrent d'anxiété et 40% présenteraient des signes plus ou moins marqués de dépression. Plus de 2 ados sur 5 n'en ont parlé à personne. La santé mentale, c'est devenu un vrai sujet aujourd'hui. On en parle de plus en plus. Qu'est-ce qu'on peut faire, selon vous, pour libérer la parole ?
Mais libérer la parole, faut en parler, ça devient très compliqué. Parce que justement, ils n'y arrivent pas à parler. Je pense qu'il faut avoir une place pour parler. Florent Vasseau, quand il va interviewer les gens, ce sont des gens qui ne parlent pas. Il attend. Il leur laisse la place. Je pense que les gens ne parlent pas quand ils n'ont pas la place.
Parce que la santé mentale, c'est considéré encore comme un tabou aussi. C'est difficile d'en parler.
Ouais, probablement. Et puis, chez les ados, c'est encore plus compliqué parce qu'ils ont l'impression que s'ils le disent, leurs parents vont être tristes ou vont les déconsidérer. C'est difficile, je pense, pour eux.
Une des grosses sources d'angoisse, d'ailleurs, c'est l'école et en particulier les évaluations et les notes. 2 ados sur 3 pensent d'abord à la réaction de leurs parents s'ils reviennent avec des mauvaises notes.
Alors, est-ce que la discussion doit être rétablie plutôt au sein de la famille ou doit être... Peut-être les profs peuvent amener parfois les ados, même si les profs, ils en ont déjà beaucoup à faire, mais ils peuvent amener les ados à reconsidérer les notes pour eux-mêmes et pas par rapport à leurs parents. Mais c'est facile à dire. Après, vous ne pouvez pas contrôler les parents. Et il y a des gens qui voient le ratage, entre guillemets, parce que c'est une mauvaise note, donc le ratage comme un futur sombre pour l'enfant. Or, on sait qu'aujourd'hui, les débouchés sont difficiles. C'est pas simple aujourd'hui d'être un ado, je pense.
Dans Logique imperturbable du fou, Zabou Breitman, il y a abordé la question de la dépression. Est-ce que vous, au cours de votre vie, vous avez eu un moment ou un autre connu la dépression ?
Je crois pas, non. Non, non. Je
pense Parce que c'est très tempérament précis. Optimiste.
Ben ouais.
Mais oui, vous savez, dites pas ça d'un air désolé.
Non, c'est pas ça que je veux dire. Non, c'est pas
ouais.
ça. Que... Non, je voulais dire. Pas dire quelque chose de l'ordre de « moi, je suis bien dans ma peau ». Vous voyez ce que je trouve quelque chose à renvoyer à des gens qui ne le sont pas ?
Ah non, c'est pas comme ça que je l'ai pris.
D'accord.
La façon dont vous le dites, ça fait genre « ah bah non, malheureusement ».
Non, je disais parce qu'on n'est pas tous égaux. C'est pas des décisions.
On n'est pas égaux.
Mais non, c'est pas une décision de genre « je suis optimiste, donc tout va bien ». C'est pas du tout ça. Je peux être très sombre, hein. Très très sombre, bien sûr. Non, la dépression, c'est encore autre chose et ce sont des états. Il y a des dépressions légères, dépressions profondes. Ce sont des états à respecter. C'est dur d'en parler comme ça. Il y a des mômes qui ont déjà des tendances dépressives, tout petits. Et on se dit, la vache, ça, c'est pas cool, quoi. C'est pas cool pour eux, parce que faut bien qu'ils luttent contre ça, quoi.
J'en profite pour glisser d'ailleurs un numéro super important, 0800-235-236. C'est une ligne, justement, d'écoute. Et il y a le site aussi, filsantéjeune.com. Zabou Breitman, vous avez mené plusieurs combats et soutenu plusieurs causes. Engagement pour la planète, la transition écologique, la liberté d'expression, pour le droit des femmes. Vous avez soutenu l'association Urgence Homophobie, le Secours Populaire. Téléportation, on part en 2023. Vous avez rejoint les Pères Noël Verts qui permettent aux enfants, aux étudiants, aux familles, aux personnes âgées isolées et aux sans-abri de fêter Noël avec dignité grâce aux cadeaux et aux dons. Qu'est-ce que vous avez pu voir dans le regard de toutes ces personnes que le Père Noël a oubliées ?
J'ai pas vraiment vu parce que je suis pas allée jusqu'au... J'étais récolter les cadeaux, d'accord, dans les entreprises. La chose la plus concrète que j'ai pu faire, c'est pendant le Covid, où il n'y avait plus de couches de lait premier âge, il n'y avait plus rien et les gens venaient, faisaient la queue pour choper quelque chose parce que, évidemment, ça a été une catastrophe pour les plus démunis. Donc là, j'ai pu, grâce à tout à coup une femme merveilleuse dans une grosse entreprise qui dit « Ah, mais moi, je vous adore !» et qui envoie 2 palettes de produits. Bon, voilà. Ça, là, j'ai eu de la chance. J'ai profité, entre guillemets, de ma notoriété pour de très bonnes raisons. Pas seulement pour réserver un restaurant, vous voyez.
Ouais.
Et donc, là, pour moi, c'était très, très important. On peut tous, à chaque niveau, faire quelque chose. Parfois, c'est tout petit. Mais vous savez, il y a des gens qui gagnent très peu et qui donnent quand même 20 euros régulièrement pour aller sauver d'autres gens qui sont encore plus dans la misère qu'eux. Mmh. Et vous vous dites, si moi, je fais rien, franchement, alors là, c'est pas possible, quoi. Donc, pour moi, c'est obligatoire. Et le Secours Populaire est un organisme que j'aime profondément.
Zabou Breitman, on termine cette émission avec un extrait musical.
Il a plu sur Nantes. Donne-moi la main. Le ciel de Nantes.
Barbara, Nantes, un titre que vous écoutiez avec votre maman. Barbara disait « Je n'ai pas de passé, j'ai des souvenirs ».
Ah, c'est beau.
On termine là-dessus, c'est bien, c'est raccord en plus avec le film.
C'est sublime, oui, oui, et puis cette mélancolie profonde, cette voix incroyable, et ces paroles sublimes, quoi.
Merci Zabou Bretman.
Merci, hein.
Le garçon, ça vient de sortir au cinéma. Au début, vous allez peut-être être surpris par ce film qui n'en est pas tout à fait un. Mais vous allez voir, on se replonge avec douceur dans un monde qui nous est familier et réconfortant. Le garçon, c'est un film de Zabou Bretman et Florent Vasseau avec Isabelle Nanty, François Berléon et Damien Sobiraf. Ce voyage et tous les autres, vous pouvez les vivre en podcast. L'émission s'appelle Dans le rétro. Passez tous un super bon week-end. Prenez soin de vous. Salut.